Histoire de France, Jacques Bainville, chapitre 7. Louis XI. L'unité sauvée, l'ordre rétabli, la France reprend sa marche en avant. En somme, depuis l'avènement des Valois, la monarchie et la France avaient peine à se remettre d'aplomb. Le prestige de la royauté n'était plus ce qu'il avait été. Les circonstances avaient singulièrement favorisé et enhardi la haute féodalité, les grands vassaux, les ducs de Bourgogne surtout, qui apparaissaient comme les égaux du roi de France. Avec la Picardie et la ligne de la Somme, ne tenaient-ils pas Paris à leur discrétion? Les ducs bourguignons se sentaient de moins en moins français, à mesure que s'éloignait leur cousinage. Philippe le Bon, Jean sans peur lui-même, avait encore quelques scrupules à nuire à la France. Charles le Téméraire serait un ennemi déclaré. Il ne semblait pas impossible alors que cet État nouveau détruisît l'État français. L'œuvre de la restauration de Charles VII était fragile, aussi fragile que l'avait été celle de Charles V. En 1461, il mourut, dit-on, d'inquiétude et de chagrin. Il en avait de sérieuses raisons. Son fils aîné ne s'était-il pas révolté contre lui? Ne s'était-il pas mis à la tête d'une ligue rebelle? En rétablissant l'ordre en France, Charles VII avait fait des mécontents. L'anarchie profite toujours à quelqu'un, souvent au grand, jamais au petit. La Praguerie, elle fut ainsi nommée par une singulière imitation des troubles hussites à Prague, ressemble à tant de frondes que nous avons déjà vues et que nous verrons encore. Que cette noblesse française était étrange, tantôt fidèle, dévouée, prête à verser son sang, décimée à Crécy, décimée à Poitiers, décimée à Azincourt, tantôt insoumise et dressée contre l'État. Pourtant, ce n'était pas une caste, une aristocratie fermée, une race à part en France. Les grands vassaux sortaient presque tous de la famille capétienne. Quant aux nobles, ils eussent disparu depuis longtemps si des anoblis n'avaient occupé les places vides. Mais tout homme riche, tout seigneur, supporte mal la discipline. Ce fut justement le rétablissement de la discipline civile et militaire qui fut la cause de la Praguerie. Cette affaire fut d'autant plus grave que l'héritier de la couronne y était mêlé. Jamais encore, chez les Capétiens, on avait vu le futur roi en rébellion contre son père. Sans doute, il y avait là un signe d'impatience de régner qui tourmentait Louis XI. Il y avait aussi l'indice d'un affaiblissement de la monarchie. Les contemporains purs, à bon droit, trouvaient le symptôme mauvais et croire davantage à la maison de Bourgogne qu'à la maison de France, divisée contre elle-même. Mais Louis XI était de vrai lignage capétien. Il s'instruisait par l'expérience. Il n'en sera que plus ardent à rendre l'autorité à la couronne. La Praguerie avait été réprimée par Charles VII avec décision. Mais le dauphin, pardonné, n'avait pas tardé à se brouiller de nouveau avec son père et à se mettre sous la protection du duc de Bourgogne. Là, il put observer et connaître son adversaire des temps prochains. Malgré les griefs que lui avait donnés le dauphin, Charles VII fut sage de ne pas causer de discorde en l'excluant du trône. Il n'écouta pas ceux qui lui conseillaient de céder la Guyenne à son second fils. Le système des apanages avait coûté trop cher. L'unité du royaume était plus précieuse que tout. Charles VII a rendu un autre service à la France en laissant intact l'héritage de Louis XI. Et, quand celui-ci fut roi, il continua l'œuvre de son père. Si la grande féodalité comptait sur le nouveau règne, elle se trompait. Seulement, Louis XI, esprit réaliste, avait bien jugé qu'il n'était pas assez fort pour la combattre en face. Il avait, à juste titre, le cauchemar des coalitions. Il eut recours aux armes quand il ne pouvait s'en dispenser, mais sa préférence était pour d'autres moyens, l'argent surtout. Il payait ce qu'il ne pouvait conquérir. Avaricieux pour lui-même, encore plus modeste dans ses habits que son père, il trouva 400 000 écus pour acheter une province. La ruse, l'absence de scrupules, étaient sans doute dans son caractère. Elles étaient aussi des nécessités de la situation. Diviser ses ennemis, abattre les plus faibles, s'humilier aux besoins devant les autres, sacrifier ses alliés en cas de nécessité, inspirer la crainte quand il était le plus fort, subir des affronts et attendre l'heure de la vengeance. Ce n'étaient pas des procédés de paladin. Charles le Téméraire, le grand-duc d'Occident, avait une autre allure. À la fin, comme dans la fable, le roseau l'emporte à force de plier. Louis XI avait d'abord cru que quelques concessions aux grands vassaux suffiraient à sa sécurité et qu'il pourrait, en attendant mieux, s'occuper d'autres affaires, du Roussillon par exemple, qui réunit une première fois à la couronne. Mais le conflit avec la maison de Bourgogne était inévitable. Le comte de Charolais, bientôt Charles le Terrible ou le Téméraire, ambitieux et violent, à la fois anglais et portugais par sa mère, gouvernait déjà au nom du vieux duc Philippe. Charles se méfiait de Louis XI autant que Louis XI de lui. Tout était grief, même leurs négociations. L'orage devait éclater. C'est bien ce que le roi redoutait, une coalition des féodaux, une autre praguerie. Elle eut lieu, avec le propre frère du roi, comme pour le punir de sa rébellion contre son père. Elle prit le nom séduisant de la Ligue du bien public, qui ralliait tous les mécontents. Elle lança une proclamation démagogique où les illégalités et l'arbitraire de la monarchie étaient dénoncés, chose admirable, sous la signature de Charles le Téméraire. Louis XI était même accusé de comploter avec l'Angleterre contre les princes français, alors qu'il avait pris, par un bon contrat avec Warwick, une assurance contre une intervention anglaise. Il répondit avec bon sens que sous les règnes précédents, c'étaient les guerres civiles qui avaient livré la France aux Anglais. Louis XI avait, sur les grands féodaux, l'avantage de l'organisation royale, de l'armée permanente laissée par Charles VII. « Le roi est toujours prêt », disait avec dépit le Téméraire. Quand le duc de Bourgogne arriva, Louis XI avait déjà mis hors du jeu les ducs de Bourbon et de Nemours, grâce à quoi une bataille qui eut lieu à Montlhéry, 1465, fut indécise, et Louis XI put rentrer dans Paris, qu'il dispensa d'impôts pour être plus sûr de sa fidélité. Car la trahison courait partout, même au camp royal. Ce qui explique beaucoup des rancunes que garda le roi et des sévérités qu'il eut plus tard. Une bataille à Montlhéry. Représentons-nous la faiblesse d'un gouvernement dont le sort se jouait à quelques lieues de sa capitale. Cependant, Bourguignon, Breton, Lorrain avaient opéré leur jonction et menacé Paris, que Louis XI ne put empêcher de passer à l'ennemi qu'à force de flatteries et de cadeaux. Il se jugeait lui-même en si mauvaise posture qu'il parlait de se réfugier en Suisse, ou chez son ami le duc de Milan. Par bonheur, les coalisés hésitèrent. Louis XI profita de ce moment d'hésitation pour tenter les princes. Place forte, province, argent, il leur offrit beaucoup. Un peu moins pourtant que ce qu'ils auraient pu prendre. À ce prix, qui était lourd, Louis XI écarta le péril. Il montrait que la prétendue ligue du bien public n'était qu'une ligue d'avidité. Louis XI l'avait échappé belle, mais il s'était encore démuni, affaibli. Mais ce ne serait pas une petite affaire de ressaisir ce qu'il avait cédé, la Normandie à l'un, la Guyenne à l'autre, tout un démembrement de la France. Peut-on reprocher à Louis XI de n'avoir signé à Conflans qu'avec la pensée de ne pas tenir? Il faudrait un volume pour entrer dans les détails de la politique qu'il suivit alors, des multiples intrigues qu'il noua, convoquant les États généraux pour leur faire déclarer que la cession de la Normandie était nulle, reprenant cette province à son frère, encourageant les révoltes de Liège et de Dinan contre le duc de Bourgogne. Charles le Téméraire, qui venait de succéder à son père, nourrissait de vastes et dangereux desseins. Il voulait fondre en un bloc ses domaines faits de pièces et de morceaux, relier la Bourgogne aux Pays-Bas, soit par la Champagne, soit par la Lorraine, gouverner sans avoir à rendre hommage au roi de France, ni à respecter les coutumes flamandes. Déjà, il avait terriblement châtié les villes de la Meuse. Louis XI sentit que son tour allait venir, et voulut prévenir le danger. Se fiant à son adresse, il demanda une entrevue à son cousin, et, muni d'un sauf-conduit en règle, se rendit à Péronne. Comment le renard n'avait-il pas saisi le piège? À peine était-il arrivé à Péronne que Charles le Téméraire, alléguant une nouvelle révolte de Liégeois, dont il rendait le roi responsable, le retint prisonnier. Il ne le relâcha qu'après l'avoir humilié. Louis XI dut aller, de compagnie avec le duc de Bourgogne, écraser à Liège nos fidèles alliés. Il avait dû promettre aussi de donner la Champagne à son frère. Louis XI accepta tout, signa tout, sacrifia les Liégeois et sa fierté pour sauver la Champagne. Il fit tant qu'en retrouvant sa liberté, il obtint que, si son frère y consentait, il pourrait lui donner une autre province moins importante que la Champagne. Louis XI s'était tiré du plus mauvais pas de sa vie. Mais pourquoi Charles le Téméraire l'avait-il laissé partir quand il le tenait à sa merci? On ne peut trouver qu'une raison. La force morale que représentait le roi, le devoir qui liait le vassal, même le grand vassal, au suprême suzerain. Ainsi jadis, les Plantagenets avaient respecté leur hommage au roi de France. La féodalité portait en elle-même cet important correctif. Elle protégeait, elle servait encore le souverain qui lui apportait de si rudes coups. C'est à la suite de cette aventure que Louis XI infligea à ceux qui l'avaient trahi ses plus célèbres châtiments. Le cardinal de la Balue avait trempé dans le guet-apens de Péronne. Ce prince de l'Église eut la vie sauve, mais il fut enfermé dans une de ces cages de fer qu'on employait en Italie et dont il avait lui-même recommandé l'emploi. Ces châtiments, que la légende a retenus, frappent les esprits. C'est ce que cherchait Louis XI, et c'était la plus simple de ses tâches. Il était nécessaire d'inspirer la crainte. À chaque instant, il fallait réprimer les séditions des seigneurs ou des villes. Partout, le roi trouvait des ennemis. Du côté de l'Angleterre, où l'on ne savait alors qui gouvernerait le lendemain, le roi de France devait toujours être sur ses gardes. Malgré des trêves, l'état de guerre avec le duc de Bourgogne était permanent. Une fois, le téméraire n'y tint plus. Il voulut brusquer la partie, envahit le royaume, assiégea Beauvais. Mais sa réputation commençait à être mauvaise. Beauvais redouta le sort des Liégeois. Les habitants, les femmes même, défendirent la ville. Et c'est là que s'illustra Jeanne Hachette, 1472. L'expédition tourna court. Le duc de Bourgogne rentra chez lui sans résultat. Alors, les esprits perspicaces se mirent à douter de lui, et c'est à ce moment que Comines passa au camp de Louis XI. Vis-à-vis de son grand adversaire, le roi avait adopté pour tactique la prudence. Il le voyait s'engager dans des entreprises de plus en plus hasardeuses, affronter la Lorraine, l'Alsace, l'Allemagne, la Suisse. Louis XI le sentit perdu. Désormais, il se garda d'intervenir autrement qu'en lui suscitant des ennemis. Il fit confiance au temps, attendit son heure. Il donna même 50 ans pour que le duc de Bourgogne se tournât d'un autre côté. Ce côté, c'était celui de Grandson et de Morat, où les cantons suisses infligèrent deux graves défaites au puissant duc. Il ne s'en remit pas. Rien ne lui réussit plus. Devant Nancy, dont il voulait faire la capitale de son état, la tête d'une Lotharingie nouvelle, il trouva une mort misérable. 1477. Plus grand bonheur ne pouvait arriver à la France. Sans effort de notre part, un ennemi dangereux était abattu. Et puis, Charles n'avait pas de fils. Ses apanages retourneraient donc à la couronne. Ils n'y retournèrent pas, sans des difficultés qui eussent été plus grandes si le téméraire n'avait fini dans un désastre. Louis XI dut encore mettre des garnisons en Bourgogne, en Picardie et en Artois. Quant à l'héritière, Marie de Bourgogne, les Pays-Bas lui restaient en propre. Elle était déjà mariée, presque fiancée à Maximilien, le fils de l'empereur Frédéric. On reproche à Louis XI de ne pas lui avoir donné son fils. Mais le dauphin n'avait que 8 ans, et Marie de Bourgogne avait des rancunes contre la maison de France. Elle porta les Pays-Bas dans la maison d'Autriche. Funeste mariage. 3 siècles plus tard, Louis XV disait devant le tombeau de Marie et de Maximilien « Voilà l'origine de toutes nos guerres ». Cependant, sur le moment même, le mal ne parut pas si grand. L'empereur germanique était si faible, si dépourvu de ressources, que son fils ne songea même pas à revendiquer l'héritage entier de Charles le Téméraire. Quant à donner un prince de sang pour époux à Marie de Bourgogne, comme le suggérait Comines, Louis XI refusa avec raison. Pas plus que son père, il ne se souciait de recommencer les apanages, de ressusciter peut-être un parti bourguignon. D'ailleurs, il recueillait de toutes parts. Le bon roi René, le roi d'Aix, mourait bientôt, lui laissant l'Anjou, tandis que la Provence, allant à un héritier sans enfant, revenait peu après à la France. Un accident de cheval enlevait Marie et mettait fin aux dernières difficultés de la succession de Bourgogne. La paix d'Arras fut conclue avec Maximilien. Alors, Louis XI posséda paisiblement. Picardie, Bourgogne, Provence et Roussillon, Maine et Anjou. Voilà ce qu'il laissait à la France. Énorme progrès, non seulement par l'étendue et la richesse de ses provinces, mais parce qu'elles groupaient ce qui était éparse et formaient autant de barrières contre les invasions. On ne peut mieux dire que Michelet. Le royaume, jusque-là ouvert, se ferma pour la première fois et la paix perpétuelle fut fondée pour les provinces du centre. De plus, la grande féodalité, ennemie de l'État, s'éteignait. Il ne restait plus à craindre que la maison de Bretagne. Louis XI avait achevé de réduire les grands vassaux. Le duc de Nemours fut décapité. Déjà, le connétable de Saint-Paul l'avait été pour trahison. Enfin, autre résultat du règne. Dès 1475, il avait été signé à Pinquigny avec l'Angleterre une paix définitive qui fermait la guerre de 100 ans. Tout cela, ce grand pas vers l'unité et la sécurité de la France sans guerre. Louis XI n'aimait pas le risque des batailles et il avait une armée pour intimider l'adversaire plutôt que pour s'en servir. Quel gré lui en a-t-on eu ? Aucun. Ce roi vivait sans luxe, entouré d'hommes obscurs, Olivier le Dain ou le médecin Coctier. Il était avare du sang de son peuple et ne menait à l'échafaud que des princes traîtres ou rebelles. Sa légende n'en est pas moins sinistre et elle a porté jusqu'à nous, les raconteurs du temps, tout ce que les agents bourguignons propageaient. Les foules sont romanesques et sentimentales. Pour elles, Louis XI, tout en calcul, qui choisissait ses victimes utiles, resta l'homme noir. On plaignit Saint-Paul et Nemours. On se défendit mal d'admirer Charles le Téméraire, un de ces hommes qui, à l'exemple de Napoléon, frappent les imaginations jusque par leur fin tragique. Mais, pour Louis XI, seul le résultat comptait. Il mettait loin en arrière l'orgueil et l'amour-propre. Héroïque, chevaleresque, et même, si l'on veut, plus franc. N'eût-il pas couru au-devant du danger ? À des moments difficiles, il avait su rompre et s'humilier. Il n'avait eu que des ambitions modestes, réalisables, s'arrondir, donner ou rendre à la France ce qui était français. En face de lui, le duc de Bourgogne forçait le temps et la nature. Une catastrophe l'attendait. Cependant, jusqu'à nos jours, de graves historiens ont reproché à Louis XI d'avoir été cruel pour d'illustres personnages, d'avoir versé du sang. Comme la foule, il se soucie peu des cadavres que les téméraires avaient entassés, des villes qu'il avait détruites, des populations qu'il avait anéanties. L'histoire mélodrame s'attendrit sur la Balue, Saint-Paul et Nemours. Elle passe légèrement sur le sac de Liège. Elle ne compte pas les milliers d'humbles vies humaines que Louis XI a épargnées et celles qu'il a protégées en donnant à la France de l'ordre et ses frontières. Ce règne, dont la vraie gloire n'a été vue qu'après bien longtemps, assurait une longue période de solidité et de prospérité. On frémit quand on pense à ce qui fut arrivé si Louis XI était mort quelques années plus tôt, avant que la grande féodalité eût perdu la partie. En 1483, son fils Charles n'avait que 13 ans. Une minorité recommençait, mais dans des conditions aussi bonnes que possible. L'opposition des princes avait cessé d'être redoutable. Une femme en vint à bout. Louis XI avait désigné pour la régence sa fille, Anne de Beaujeu, confidente de sa politique et de ses pensées. Régence aussi heureuse et aussi habile que celle de Blanche de Castille. Au grand qui s'était encore soulevé, le duc d'Orléans à leur tête, Anne sacrifia les hommes les plus impopulaires de l'entourage de son père, mais elle préserva son œuvre. Les grands, pour porter un coup à la monarchie, réclamaient les états généraux. La régente les convoqua plus largement qu'ils ne l'avaient jamais été, non seulement toutes les provinces, mais toutes les classes, les paysans même, une vraie représentation nationale qui vint, munie de ses cahiers, comme elle viendra en 1789. On entendit tout dans cette assemblée, des demandes de réformes administratives, qui d'ailleurs ne furent pas perdues, et des théories politiques, jusqu'à celle de la souveraineté du peuple que développa Philippe Pot. Comme l'avait calculé la régente, l'espoir des princes fut trompé. Les États de 1484, réunis par prudence à Tours et non à Paris, ne trouvèrent pas leur Étienne Marcel. Alors, les féodaux déçus prirent les armes. D'avance, leur cause était perdue, et l'opinion publique jugera bien, en appelant leur soulèvement, la guerre folle. Elle eut ce résultat que le seul des princes qui resta puissant, le duc de Bretagne, fut vaincu. À ce moment, la régente eut à prendre une décision délicate. Dans un sens comme dans l'autre, il y avait à perdre et à gagner. Le moyen de réunir à la couronne les Bretons, toujours ombrageux et jaloux de leur indépendance, c'était de marier Charles VIII avec l'héritière de Bretagne, la jeune duchesse Anne. Mais Louis XI, au traité d'Arras, avait convenu que le dauphin épouserait Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien et de Marie de Bourgogne. À quoi valait-il mieux renoncer ? À la Bretagne ou bien à la Franche-Comté et à l'Artois, dot de la princesse Marguerite ? Il semble que Maximilien lui-même ait dicté le choix de la cour de France. On apprit que le veuf ambitieux avait épousé la duchesse Anne en secret et par procuration. Maximilien, maître de la Bretagne, c'était l'ennemi installé en France. Le mariage fut déclaré nul avec l'appui du pape, et ce fut Charles VIII qui épousa. La Bretagne deviendrait française. Enfin, cette porte, trop longtemps ouverte à l'étranger, se fermait. Tout allait bien pour la France. Le duc d'Orléans, le premier des princes, le futur Louis XII, s'était réconcilié avec le roi qui lui avait pardonné. L'Angleterre allait de guerre civile en guerre civile. Maximilien était devenu empereur, mais l'empereur germanique, dans ses Allemagnes divisées, continuait à avoir plus de difficultés que de puissance. Ni lui, ni les Anglais ne purent rien contre le mariage breton. Charles VIII, devenu majeur, était à la tête d'un État pacifié, prospère et de la plus belle armée d'Europe. La France le poussait à agir. Elle s'était ennuyée sous Louis XI. Comme il lui est arrivé maintes fois, elle était lasse d'une vie prosaïque. Une autre génération était venue. Les maux de la guerre étaient oubliés. On aspirait au mouvement, à la gloire. Où diriger ce besoin d'activité? Oh, les tâches ne manquaient pas. La France n'était pas encore finie. Vers la Lorraine et le Rhin, entrevus par Charles VII, il restait beaucoup à faire. Mais ce n'est pas là qu'allaient les imaginations. Et puis, pour épouser la duchesse bretonne, pour rompre le projet de mariage autrichien, Charles VIII avait renoncé par traité à la Franche-Comté et à l'Artois. Reprendre sa parole eût entraîné des complications, peut-être des périls. Une route restait ouverte et le sentiment public y poussait le jeune roi. C'était plus fort que le raisonnement. Tout conspirait à nous entraîner en Italie. Sagement, Charles VII et Louis XI avaient refusé de soutenir les droits sur Naples qu'ils tenaient de la maison d'Anjou. Ils avaient résisté aux sollicitations des cités italiennes. Mais un esprit d'aventure soufflait en France. Beaucoup d'Italiens étaient venus. Leur pays de soleil attirait. En développant le commerce, l'essor de Lyon date de ce temps-là. Louis XI avait donné naissance à de nouveaux courants. Lyon et ses soies sont en rapport avec le Piémont et la Lombardie. Et il y avait encore cet avare, donné naissance à des idées de luxe. D'Italie, il ne venait pas seulement des cages de fer. Italiane, italiane, c'était un désir, le goût de l'art, du beau, plus que celui des conquêtes qui animaient les Français. Si l'on cherche les résultats des brillantes campagnes de Charles VIII, de son entrée à Rome, de sa chevauchée jusqu'à Naples, on le trouverait surtout dans l'ordre esthétique. Le beau voyage. Ce fut une vraie guerre de magnificence. Qu'elle plût aux Français. Avec quelle complaisance il fut parlé des exploits de Bayard et de la Trémoille. Quelle revanche des années grises où Louis XI, enfermé à Plessis-les-Tours, coiffé de son vieux chapeau, ruminait de longs calculs. Il y avait toutefois, dans ces guerres d'Italie, une idée politique. C'était d'écarter Maximilien qui, épousant toujours, tenait de sa seconde femme, Blanche Sforza, des droits sur les Milanais. C'était aussi d'écarter l'Espagne, dont les princes s'étaient emparés du royaume de Naples, au détriment de la maison d'Anjou. L'anarchie italienne attirait les convoitises, et l'Italie nous appelait à l'aide. Savonarole, à Florence, saluait le roi de France des noms de libérateur et de vengeur. Ainsi, tout invitait Charles VIII à franchir les Alpes. Cette guerre, si désirée, si fêtée, fut aussi le principe de complications infinies, d'une suite de coalitions et de ligues, jusqu'au jour où, par le mariage du fils de Maximilien avec Jeanne la Folle, l'empereur germanique Charles Quint deviendra roi d'Espagne et réalisera la puissance la plus dangereuse que la France ait rencontrée depuis qu'elle s'est affranchie de l'Angleterre. Alors, la France trouvera devant elle l'Allemagne, qui, par la maison d'Autriche, recommencera à compter en Europe. Les Habsbourg, partis de si peu de choses, ne cessaient de s'élever par les mariages et par de patients accroissements de leur domaine héréditaire. Combien de fois déjà en Flandre, en Bretagne, même si la France n'avait-elle pas eu affaire à eux, on les retrouvera en Italie, on les eut retrouvés ailleurs. Le grand conflit approchait, sans qu'on le vît bien de part ni d'autre. La France et Maximilien négocièrent beaucoup au sujet de l'Italie, où les choses s'embrouillaient à plaisir. On sera même alliés, un moment, contre la République de Venise. L'expédition de Charles VIII, si éclatante à ses débuts, finit mal. L'Italie versatile s'étant tournée contre les Français qu'elle avait appelés. Il fallut pour en sortir bousculer à Fornoux les soldats de la Ligue italienne, 1495. Ce fait d'armes sauvait la face, et la guerre d'Italie en France ne cessa pas d'être populaire. Elle n'avait rien coûté, l'armée s'était nourrie sur l'habitant. Elle avait même rapporté, avec de la gloire, un somptueux butin. Cette guerre, elle sera reprise par Louis XII, et Louis XII sera l'un des plus aimés de nos rois. Charles VIII, après un règne très court, mourut d'accident, ne laissant que des filles. Comme la royauté française était affermie, à la mort du dernier fils de Philippe le Bel, l'avènement des Valois n'avait pas été sans causer du trouble. Louis d'Orléans, Louis XII, cousin de Charles VIII, succéda sans difficulté, 1498. C'était le petit-fils de la victime fameuse dont la mort, jadis, avait divisé la France. Tout cela était loin. Le nouveau roi lui-même avait oublié un moment que sa famille avait personnifié le parti de la France et, pendant la minorité de Charles VIII, il avait pris part à la folle guerre des princes. Il avait vite expié et regretta cette erreur de jeunesse. C'est pourquoi on lui attribue le mot célèbre à la Trémoille qu'il avait alors battu et fait prisonnier. Le roi de France ne venge pas les injures du duc d'Orléans. Et pour que le bénéfice du mariage de Charles VIII ne fût pas perdu, Louis XII se hâta d'épouser à son tour la Bretagne avec la veuve de son cousin. Louis XII a gardé dans l'histoire le nom de père du peuple, que les États généraux de 1506 lui ont donné. Ce règne, si occupé au dehors des nouvelles guerres d'Italie et dont la politique extérieure ne fut pas irréprochable, a été à l'intérieur celui de la bonne administration. Autant que les peuples peuvent être heureux, les Français d'alors semblent l'avoir été. Il y a peu de périodes où ils se soient montrés aussi contents de leur gouvernement. L'histoire recueille en général plus de récriminations que d'éloges. Presque toujours on s'est plaint. Presque toujours, les gens ont trouvé que les choses allaient mal. Sous Louis XII, c'est un concert de bénédictions. La France se félicite des impôts, qui sont modérés, de la police, qui est efficace, de la justice, qui est juste. Le commerce lui-même, si exigeant, est satisfait. Depuis Saint-Louis, pareil épanouissement s'était vu. Comme alors, ce fut une douceur de vivre, en comparaison peut-être des temps si durs, l'aigle des guerres civiles et de l'invasion, par lesquels la France avait passé. À ces moments-là, on bénit le pouvoir. Sans doute, quand la France ne court pas de grands périls extérieurs, quand il n'y a pas au-dedans de factions qui la déchirent, elle se gouverne aisément. Elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. La popularité de Louis XII a été due pour une part à ses circonstances favorables. La monarchie française était aussi, au jugement des contemporains, le meilleur gouvernement qui existât alors. Elle était tempérée par ses propres traditions, et le mode de formation du royaume y répandait naturellement les libertés. Il fallait respecter les coutumes et les franchises des provinces nouvellement réunies. La Bourgogne, la Bretagne, et des privilèges à peu près équivalents s'étendaient aux autres provinces. La France était seule en Europe à offrir ce mélange d'unité et de diversité. Dans des conditions politiques et sociales bien différentes de celles d'aujourd'hui, les Français ont ainsi eu une existence enviable. Chaque classe avait son statut, ses droits, mais aucune n'était fermée. On accédait librement au clergé. Quant à la noblesse, la bourgeoisie s'y poussait d'un mouvement continu, et cette noblesse prenait l'habitude de servir. Les droits seigneuraux étaient de plus en plus limités et régularisés, de moins en moins lourds. La loi sortait de la coutume, et l'ensemble formait une harmonie qu'admira Machiavel, venu d'un pays où tout n'était que confusion. On comprend que la monarchie capétienne, qui avait déjà résisté à tant d'orages, se soit si profondément enracinée que la France lui soit revenue à plusieurs reprises et lui soit restée fidèle longtemps. Il s'en faut pourtant de beaucoup que l'activité de Louis XII, au dehors, ait été aussi heureuse. La guerre d'Italie, qu'il avait reprise, qui gardait toujours le même charme, tourna plus mal encore que sous Charles VIII. Après des débuts faciles, la France s'englua dans les complications italiennes. Les alliances, les ligues, avec ou contre les Espagnols, avec ou contre Maximilien, avec ou contre Jules II, se nouaient et se dénouaient d'un jour à l'autre. Louis XII partageait le royaume de Naples avec le roi d'Espagne. Puis, le partage entraînait la brouille, et nous étions vaincus à Sérignol. Associé un moment à l'empereur et au pape contre la République de Venise, Louis XII entra bientôt en conflit avec Jules II, qui coalise contre la France, Maximilien, Ferdinand le catholique, Henri VIII d'Angleterre, les Suisses et la République de Venise. La France est aux prises avec toute l'Europe d'alors. Malgré des prodiges de valeur militaire, malgré la campagne de Gaston de Foix, aussi foudroyante que celle de Bonaparte, malgré la victoire de Ravenne où le jeune capitaine périt, la France finit par perdre l'Italie à la bataille de Novare, 1513. Ce fut le signal de l'invasion. Henri VIII débarqua une armée à Calais, la terrible porte que gardait chez nous l'Angleterre, et prit Tournai. Les Allemands, les impériaux, parurent en France pour la première fois depuis longtemps. Ils assiégèrent Dijon, accompagnés des Suisses devenus nos ennemis. Après avoir combattu pour leur liberté, les cantons tournaient au militarisme. Heureusement, la furie des Français, célèbre depuis Fornoux, inspirait une crainte salutaire. On achetait d'abord les Suisses, qui avaient des goûts mercenaires, puis Henri VIII, qui trouva que c'était de l'argent vite gagné. Louis XII, s'étant réconcilié avec le pape Léon X, les autres coalisés se dispersèrent. Le roi mourut peu après cette alerte, mais le signe était grave et on ne le comprit pas. La France brillante et heureuse, qui pleura le père du peuple, oublia de dire ce qu'elle se doit de dire toujours. Souviens-toi que tu peux être envahi. Fin du chapitre 7.